Durant le mois de novembre, Camille Poncin est venue présenter son documentaire « La combattante » au cinéma Louis Malle de Prayssac durant le festival Migrants Scène. Ce documentaire nous amène à la rencontre de Marie-Josée Toubiana, militante des droits de l'homme, ethnologue, spécialiste du Soudan. Âgée de plus de 90 ans, Marie-Josée Toubiana milite encore aujourd'hui en aidant les exilés du Darfour venus chercher refuge en France à s'en sortir dans les méandres de l'administration française durant leur parcours en quête de titres de séjour et autres régularisations de papiers. Camille Poncin était venue cet été nous présenter La combattante lors d'une avant-première vue durant les 38e rencontres cinéma de Jindou, et c'est durant ce festival, à l'ombre d'un arbre, qu'Antenne Doc a pu tendre le micro à Camille Poncin. Mais juste avant d'entendre ce que nous nous sommes dit, je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce film, La combattante.
Bon, alors, est-ce qu'il peut maintenant peut-être avoir des choses très précises sur le déroulement de l'attaque ? Alors, ce qu'on va essayer de faire, d'abord, c'est de donner tout ce qu'on peut pour montrer qu'il est bien massalite et qu'il est bien du Darfour ouest. Les massalites sont regroupés en un petit sultanat, situé au sud-ouest du Darfour, à la frontière entre le Soudan et le Tchad.
Et toi, en 56, tu savais filmer?
J'ai appris à filmer avec Rouge et surtout avec son monteur. Il avait un très bon monteur qui s'appelait Morière. C'est une vie de recherche. C'est toute ma vie. Moi, j'ai commencé mon premier papier, il date de 56. Mais tout ça n'existe plus. Tout est détruit. Tout est détruit.
هنا لاقون الجنجبيد والحكومة السودانية هنا أيوة مسكونا وأنا هنا عزبوني وأخوي قتلوا.
Est-ce qu'il a des traces de ces tortures sur le corps ou...
La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que t'allais arrêter. Pourquoi tu voulais arrêter?
Je suis fatiguée.
Mais ils vont faire comment sans toi?
Voilà la question.
Je suis en compagnie de Camille Poncin. Bonjour Camille.
Bonjour.
On a vu ton film ici, La combattante, un documentaire qui sortira prochainement. Le 5 octobre prochain, il sortira. Ce film, c'est un portrait, le portrait de Marie-Josée Toubiana, portrait d'une militante des droits de l'homme, spécialiste du Soudan, particulièrement du Darfour. Darfour, on le sait tous, ce qui a été un théâtre de guerre, d'autres horreurs fanatiques, hein, voilà, des zones où se mêlent tradition, religion et modernité, lieu de génocide ethnique, d'où l'exil de beaucoup de personnes. Et j'ai l'impression que c'est ça qui était un petit peu ton point de départ, c'est ce questionnement de l'exil. Et l'origine de ce film, on dirait presque, si je comprends, si j'ai bien compris, c'est sur... tu t'es posé la question, qu'est-ce qui se passe à la jungle de Calais?
Oui, l'envie de faire ce film est venue de mon passage dans la jungle de Calais pendant l'été 2015, où j'ai rencontré les réfugiés qui s'y trouvaient, notamment des Afghans, des Syriens, des Érythréens et des Soudanais du Darfour. Et voilà, et autant je connaissais un petit peu l'histoire de l'Afghanistan, de la guerre en Syrie, du régime autoritaire très violent en Érythrée, autant c'est vrai que l'histoire du Darfour et de la guerre civile qui a eu lieu entre 2003 et 2005 et qui en fait continue, même si c'est pas aussi violent et aussi intense que pendant ces deux années-là, celle-là je la connaissais beaucoup moins et j'ai presque eu le sentiment de la découvrir en rencontrant ces réfugiés, des réfugiés qui étaient très pudiques, qui étaient les plus pudiques de la jungle de Calais, les plus discrets, et que j'ai trouvé le plus étonnant de résilience. Et j'utilise le mot résilience parce que là, c'est vraiment, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup et qu'on entend un peu pour tout maintenant. Mais là, c'était vraiment le cas de gens qui sont capables de se projeter dans l'avenir alors qu'ils viennent d'un passé terrible. Et j'ai été très ému par cette rencontre avec eux, par leur histoire. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire qu'on connaît très mal en fait en France.
Ce qui t'a amené, j'imagine, à rencontrer donc Marie-Josée, qui elle donc connaît cette histoire. Alors, raconte-moi cette rencontre avec cette dame.
Alors, la rencontre avec Marie-Josée s'est faite 6 mois après peut-être mon passage à Calais. Et en fait, j'ai été amené à la rencontrer parce que j'ai hébergé un de ces réfugiés que j'avais rencontré dans la jungle de Calais, qui a eu un terrible accident de la route, et que j'ai hébergé pendant sa convalescence à la maison avec ma famille. Pendant une année, et donc j'ai eu envie de me documenter, de me renseigner, d'en savoir plus sur l'histoire du pays d'où venait ce réfugié, et sans lui poser trop de questions, parce qu'à chaque fois que je lui demandais de me raconter son histoire personnelle, il le faisait, mais à chaque fois il s'effondrait, parce que ça faisait remonter des histoires et des souvenirs trop terribles et trop durs pour lui, parce qu'il a perdu son frère devant lui, abattu par les miliciens djihadistes, parce que il a vécu énormément de traumatismes. Donc j'ai cherché à me renseigner par mes propres moyens pour en connaître plus sur l'histoire du Darfour. Et donc, quand on se documente sur l'histoire du Darfour, on est amené à lire forcément les livres de Marie-Josée Tubiana, qui est une ethnologue qui a fait toutes ses enquêtes de terrain dans cette région. Et ces enquêtes ont commencé en 1956, se sont prolongées pendant une vingtaine ou une trentaine d'années sur place, en faisant des allers-retours. Elle a fait de nombreux séjours sur place, elle a vécu avec les peuples du Darfour. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le travail de Marie-Josée Tubiana. Et puis un jour, je lisais aussi d'autres auteurs, et l'un d'eux m'a dit « Ah, mais Marie-Josée Tubiana est toujours en activité, elle est toujours en forme, et elle habite à Paris. » Et moi-même, comme j'habitais à Paris, il m'a donné son numéro de téléphone, et je me suis permis de l'appeler en lui expliquant que j'avais chez moi quelqu'un qui venait du Darfour et que j'avais envie d'en savoir plus, et qu'il me semblait... indispensable, en tout cas ça l'était pour moi, d'en parler avec elle. Voilà, que c'était avec elle que j'avais envie d'en parler, pour qu'elle m'éclaire sur l'histoire de son pays. Et puis ensuite, je lui ai expliqué aussi que j'étais documentariste et que j'avais envie de faire un film depuis mon passage à Calais sur l'histoire du Darfour et sur l'histoire de ces réfugiés en particulier, de ces demandeurs d'asile en particulier. Et je n'avais pas envie de faire un film général sur la question des réfugiés ou du droit d'asile ou des politiques migratoires de l'Europe, même si tout cela est évoqué dans le film. Mais j'avais envie de m'intéresser à une population en particulier, à l'histoire d'un pays en particulier, et leur rendre leur histoire et raconter d'où ils venaient, que ce soit pendant le génocide, mais aussi l'histoire avant le génocide. Et grâce à Marie-Josée Tubiana, grâce à toute sa documentation personnelle, grâce à ses films en 16 mm, grâce à ses photographies splendides qu'elle a fait pendant de nombreuses années au Darfour, c'était possible de le faire avec elle. Voilà. Donc quand je l'ai rencontrée, je suis arrivé chez je l'ai appelée, elle m'a tout de suite proposé de passer le lendemain. Et quand je suis arrivé, elle était au travail avec deux réfugiés, enfin avec un traducteur et un réfugié. Et elle m'a dit « Je suis désolé, j'ai pas fini ma journée de travail. » Je savais pas qu'elle faisait encore ces séances-là pour retracer leur histoire et les aider à raconter leur récit de vie. Et donc quand je l'ai vu au travail et que je l'ai vu se réfugier, se confier, alors là très ouvertement et en confiance à cette femme, je me suis dit c'est ici et c'est avec elle que je vais pouvoir raconter cette histoire.
Donc tu as découvert à ce moment-là le rôle qu'occupe Marie-Josée Tubiana pour ces demandeurs d'asile, notamment auprès du tribunal administratif, parce que non seulement d'être une spécialiste du Darfour, mais elle est aussi, si j'ai bien suivi dans ton film, la seule en France spécialiste du Darfour qui est en capacité de pouvoir attester du récit des exilés.
Oui, en tout cas, c'est la seule qui a une documentation personnelle qui permet d'apporter des preuves tangibles pour corriger certaines erreurs de l'OFPRA ou certains manques de l'OFPRA, parce qu'à l'OFPRA, il y a très peu de spécialisation de la part des officiers de protection. Ils couvrent des zones qui sont très larges, et donc les officiers de protection qui s'occupent de faire les entrées entretiens avec les rescapés du génocide du Darfour sont les mêmes qui s'occupent aussi d'autres pays, et donc ils n'ont pas la connaissance aussi précise et aussi spécialisée que celle de Marie-Josée. En tout cas, c'est la seule qui a une documentation personnelle, parce qu'elle a fait des relevés géographiques elle-même, de cartes, de villages, de vallées, de rivières, et elle a aussi fait, elle a aussi toutes les lignées d'ethnie, elle a elle a fait sa thèse sur les mariages là-bas, parce qu'à travers les mariages, c'est toute l'économie de la société qui est traitée, et donc elle a une connaissance et une documentation personnelle unique en France. Alors il y a d'autres personnes, il y a d'autres avocats ou d'autres chercheurs ou d'autres militants qui connaissent le Darfour et qui peuvent aider, mais il n'y a personne comme elle qui, d'abord, a du temps pour s'occuper presque tous les jours de ces gens-là, parce que faire des entretiens et faire des recherches et corriger les erreurs et prouver les récits de vie, ça lui demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et comme elle est à la retraite et qu'elle a décidé d'y consacrer la majorité de son temps, bah, elle peut le faire. Et puis, d'autre part, elle a, comme je vous le disais, toute sa documentation personnelle qui est unique. Voilà.
Qui est tellement unique d'ailleurs que l'OFPRA n'est pas au courant des anciennes cartes du Darfour. Et elle a connaissance de certains villages qui aujourd'hui sont rasés, preuve du génocide qu'ont subi déjà cette population, parce que jusqu'à leur village qui n'existe plus.
Voilà, il y a des villages, parce que les milices janjaouides donc, qui ont attaqué les tribus arabes, les tribus africaines, on dit les tribus africaines et on dit les tribus arabes du Darfour. En fait, il y a très peu de différence entre les deux. Après, à part, c'est vrai, un mode de vie différent, parce que certains sont nomades et d'autres sont sédentaires. Les tribus africaines sont sédentaires et sont généralement agriculteurs ou pasteurs. Et les tribus arabes nomades, eux, ont des troupeaux de chameaux qui, avec lesquels ils se promènent en fonction des saisons et en fonction des saisons des pluies. Voilà. Et elle, donc, a fait pendant toutes ses recherches de nombreux relevés géographiques. Donc, l'importance des cartes dans le travail de Marie-Josée, l'importance de prouver l'existence d'un village, ça peut changer le cours de la vie de ces réfugiés, parce qu'en fonction de ça, on leur accorde ou pas l'asile en fonction de ce qu'on considère être vrai ou pas vrai. Et donc à l'OFPRA, ils ont des cartes où parfois le village n'est plus sur la carte, parce que les milices janjaouides ont pratiqué ce qu'on appelle une politique de la terre brûlée dans la région du Darfour, c'est-à-dire qu'ils arrivent. Généralement, l'armée de Khartoum envoyait des avions pour pilonner le village, et ensuite les milices arrivaient à terre avec à bord de 4x4 ou à cheval avec des kalachnikovs, et arroser le village de Kalachnikov et de rafales de Kalachnikov, tuer les gens, violer, et ensuite mettre le feu à tous les villages, et les villages étaient complètement abandonnés et en quelques années disparaissaient des cartes. Et comme ça a eu lieu il y a une quinzaine d'années, les cartes récentes que possède l'OFPRA, il y a certains villages qui n'apparaissent pas sur la carte. Et pourtant, moi, en faisant simplement aussi des fois des recherches sur Google, j'ai pu retrouver sur Google Maps la présence des villages qu'on voit très nettement en 2003-2005, et puis les mêmes cartes en 2015 où les villages, là, il n'y a plus rien, c'est le désert, ça a complètement disparu.
Alors ça, l'OFPRA, en plus tu me dis que toi tu as pris le temps, tu as trouvé toi-même l'information sur internet, ouais. Ça rend encore plus inhumain des fois certains courriers du tribunal administratif, pardon pas de l'OFPRA, enfin du tribunal administratif, quand il y a les refus de demande d'asile, ça rend ça encore plus inhumain, ce que tu viens de me dire.
Oui, mais oui, bien sûr, mais alors le problème c'est que moi je travaillais sur certains récits de vie, avec certaines histoires, et que j'ai eu beaucoup de temps pour faire cela. Les officiers de protection de l'OFPRA, malheureusement, il y a des gens qui sont très bien intentionnés, qui font leur travail sérieusement, mais comme je vous le disais, ils ne sont pas spécialisés et ils doivent traiter de nombreux cas dans la semaine, et ils doivent recevoir peut-être une dizaine de personnes, et donc ils ne peuvent pas faire peut-être les recherches que moi j'ai eu le temps de faire. Ils n'ont pas les cartes de Marie-Josée Tubiana, et puis donc c'est aussi une question de moyens. L'OFPRA n'a pas énormément de moyens, il n'y a pas assez d'officiers de protection, il n'a pas de spécialisation, il n'a même pas de réel africaniste qui soit par exemple à l'OFPRA, c'est aussi une volonté politique. Ce n'est pas uniquement la faute de l'OFPRA, c'est la faute du gouvernement français, c'est une volonté politique de ne pas donner les moyens suffisants. L'équivalent de l'OFPRA en Allemagne, ils ont trois fois plus de moyens, trois fois plus de personnes, donc on ne peut pas reprocher uniquement aux agents de l'OFPRA la qualité de leur travail, puisque la qualité de leur travail dépend de leurs conditions de travail, et les conditions ne sont pas bonnes. Et l'OFPRA répond aussi à des politiques migratoires et à des directives européennes. Donc ce n'est pas une agence complètement indépendante. Elles ont des objectifs, elles ont des directives. Et donc voilà, c'est une question, c'est une responsabilité générale de l'Europe, de nos gouvernements et de nos citoyens, parce que nos gouvernements sont élus par nos citoyens.
Alors après, donc, enfin, toutes ces histoires qui t'amènent dans ce bureau de Marie-Josée à la rencontre de ces exilés, on a parlé de la pudeur qu'ont ces exilés à délivrer leur récit. Comment t'as réussi à trouver ta place, toi, en tant que documentariste, avec ta caméra, prendre des images, certains visages de ces histoires? En plus, on sait que des fois, les préfets n'aiment pas forcément qu'on médiatise en plus ces histoires. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec eux, et comment tu as procédé pour qu'ils acceptent ta présence?
C'était très simple. J'ai passé 3 ans à peu près chez Marie-Josée Tubiana, donc j'ai d'abord passé beaucoup de temps avec elle pour retracer son parcours personnel, pour me plonger dans ses archives. J'ai découvert de nombreuses archives qu'elle avait en film 16 mm, en photographie. J'en ai fait numériser certaines. Il y avait certains de ses travaux qui étaient montrés au sein du CNRS, mais il y avait certaines de ses images qui avaient été montées nulle part, qui n'étaient même pas développées. Et donc, donc je connaissais déjà, j'ai pris le temps de sympathiser avec Marie-Josée, j'ai pris le temps de connaître son travail, j'ai retracé aussi tous ses parcours, j'ai retracé tout cela, j'ai essayé d'y voir plus clair. Ensuite, ça m'a permis aussi de gagner la confiance de Marie-Josée, en tout cas de qu'elle voit que je faisais mon travail sérieusement. Tout ça prend du temps. Avec le temps, la confiance s'établit. Et donc, avec Marie-Josée, il a fallu déjà que je la persuade d'être au centre du film. Parce qu'évidemment, c'est une personne très pudique et qui s'intéresse beaucoup aux autres et pas beaucoup à elle-même. Et donc, quand je lui ai expliqué que j'avais envie de faire un film avec elle au centre de l'histoire pour raconter l'histoire des peuples du Darfour, elle m'a évidemment dit, son premier réflexe, c'est de dire « Mais non, fais un film juste avec eux, sur eux. Et moi, ce n'est pas intéressant. » Donc, j'ai d'abord dû lui prouver que c'était intéressant. Une fois le film terminé, elle a compris. Et puis, même avant cela, elle a compris. Mais je lui ai dû lui expliquer qu'elle était... pour moi, indispensable pour pouvoir raconter le Darfour aussi avant la guerre et pour pouvoir accéder à ses récits et à ses histoires, parce que quand ils sont avec elle, ils sont en confiance, parce qu'elle est là pour les aider, pour les écouter, parce que chez elle, elle a des objets qui viennent de cette région, parce qu'ils sont en confiance avec elle, parce qu'ils ont entendu parler d'elle par leurs parents, leurs grands-parents, parce que Marie-Josée Tubiana, depuis 50 ans, sillonne le Darfour. Donc, ils en ont entendu simplement par d'autres réfugiés qui lui ont dit « Il y a une dame qui connaît notre histoire, qui connaît nos ancêtres, qui connaît notre grand-père, qui connaît nos villages, qui connaît nos ethnies. » Et donc, eux arrivent déjà en confiance. Moi, je travaille en confiance avec Marie-Josée, Marie-Josée avec moi. Et donc ensuite, c'était très simple. Quand les gens venaient, je demandais, j'expliquais ce que je faisais. Je leur expliquais pourquoi je le faisais, qu'il était pour moi important de raconter leur histoire, qu'on connaisse mieux leur histoire en France, notamment pour qu'on puisse mieux les accueillir, pour qu'on comprenne pourquoi ils arrivent jusqu'ici, et puis pour raconter l'histoire de ce pays qui a disparu, parce que c'est un film aussi beaucoup sur la disparition d'une civilisation, la disparition d'une culture. Et je leur expliquais ça, et ensuite je leur demandais s'ils étaient d'accord pour que je filme et pour que je puisse récupérer leurs témoignages et ces séances de travail pour raconter leur histoire particulière, mais aussi la grande histoire et l'histoire plus générale du Darfour. Certains étaient d'accord, d'autres ne l'étaient pas, et donc quand ils ne l'étaient pas, je ne filmais pas. Certains étaient d'accord pour que je recueille le récit mais que je ne filme pas leur visage, d'autres étaient d'accord, complètement d'accord, et même me demandaient de le faire et me remerciaient de le faire. Donc avec cela, j'ai pu faire le film. J'ai filmé, j'ai assisté à peut-être une trentaine de ces entretiens, j'en ai filmé peut-être une quinzaine, et puis j'en ai gardé 5 à la fin.
Et quelque chose qui marche assez bien aussi, on va dire, dans le processus tout au long du film, c'est que bon, les témoignages qui sont filmés, les témoignages qui nous sont délivrés, c'est quand même des témoignages, je veux dire, qui nous font froid dans le dos. Hein. C'est pas des colonies de vacances qu'ont vécu ces exilés. C'est des témoignages assez horribles pour certains et lourds de sens. Et il y a Marie-Josée qui est là derrière, qui ramène un peu de distance, un peu de légèreté, dans le savoir même des fois un peu de poésie. Heureusement qu'elle est là pour pouvoir respirer dans l'horreur qu'on nous raconte par moment dans ce film.
Oui, bien sûr. Et puis surtout, ce qui, Ce qui était important pour moi et ce qui était assez unique, c'est que ça permettait d'aborder cette question sans trop d'émotion, c'est-à-dire avec un savoir, avec une connaissance, mais elle aborde leur histoire d'abord avec une rigueur scientifique, la rigueur du chercheur en ethnologie. Elle aborde ça avec une rigueur aussi juridique, la rigueur du droit. Elle répond point par point, et puis aussi avec un amour de ces populations et une curiosité, parce que c'est l'objet de son travail depuis 50 ans. Et donc chaque fois qu'ils racontent leur histoire, elle faisait donc très attention à tous les détails qu'ils avaient oublié de donner et qui permettent de justifier et de prouver la véracité de leur histoire. Mais aussi elle-même, de temps en temps, parfois, elle demandait des informations pour son savoir personnel, pour continuer son travail d'ethnologue. Ah bon, mais tu t'es marié comme ci, ah bon, de telle ethnie, mais ça ne se faisait pas à mon époque. Ah bon, tu étais habillé comme ça le jour de ton mariage. Ah mais si, c'est important. Et puis là, parfois, il y avait quelques digressions où elle continuait son travail d'enquête personnelle et voilà, avec un intérêt qui dépassait juste le récit de rescapé utile pour la demande d'asile.
Et alors, Marie-Josée, donc, dans son rôle, elle est là pour valider les récits. Est-ce que, dans ces 3 années que tu as passées en sa compagnie, tu as assisté à des échecs du travail de Marie-Josée face au tribunal administratif et face à l'OFPRA ?
Alors, dans la plupart des cas, quand Marie-Josée fait une attestation et retrace le récit et est sûre de ce qu'elle avance et prouve tout ce qu'elle avance, elle obtient toujours une réponse positive. Les demandeurs d'asile, cette lettre et cette attestation et toutes les informations qu'elle apporte, parce qu'elle a, elle en plus de son attestation, elle apporte les preuves, elle montre l'extrait de telle ONG ou de Amnesty qui raconte tel massacre. Elle dit, vous voyez, ce massacre est bien documenté tel jour, comme vous l'avez raconté, vous ne l'avez pas remarqué, mais en tout cas, vous l'avez dit ce jour-là. On a bien dans ce rapport de telle organisation la preuve qu'il y a eu ce jour-là un massacre. Ensuite, elle donne des photocopies des cartes, de ses cartes personnelles, pour prouver, ou des cartes du colonel Grossard qui date du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe, où elle dit, vous voyez bien, ce village, il existe. Alors oui, c'est une écriture différente, mais c'est parce que phonétiquement, la transcription a changé, mais c'est bien ce village dont il s'agit. Et d'ailleurs, elle pose au rescapé la question, est-ce qu'au nord de ce village, il y a bien tel autre village? Est-ce qu'au sud, il y a bien tel autre? Il le confirme. Est-ce que tu peux me dire les jours de marché dans tel village, les jours de tel marché dans ce village, etc. Et à ça, elle apporte ses preuves à elle. Donc, à chaque fois qu'elle se penche sur un dossier et qu'elle considère qu'effectivement il y a eu de nombreuses erreurs et qu'effectivement elle vient bien de là, forcément elle obtient gain de cause parce qu'elle sait et parce qu'elle est dans le droit et parce qu'elle est dans la preuve précise. Et donc à chaque fois elle n'a pas eu écho de refus suite à ses appels. À chaque fois ça a porté ses fruits et à chaque fois ça marche. Mais la seule chose, c'est qu'elle a vu entre 300 et 400 personnes depuis ces 10 dernières années, même 15 dernières années. Donc tous les réfugiés ne lui font pas un retour. Il y en a qui la rappellent, qui la remercient, il y en a qui lui disent merci grâce à vous, tout ça, qui la tiennent au courant, il y en a qui lui écrivent, il y en a qui le font passer le message par le traducteur qui était là ce jour-là et qui travaille avec Marie-Josée. Et puis il y en a d'autres, elle n'a pas. Ils disparaissent dans la nature et elle n'a pas de nouvelles. Mais c'est pas grave, donc on n'est pas sûr à 100%, mais... elle, avec la force de son attestation et des informations qu'elle apporte, généralement, elle obtient gain de cause.
Il y a aussi un détail à travers le témoignage et dans les choses que nous dit Marie-Josée Toubiana, c'est les femmes, en fait. Les femmes qui sont un peu... elles font partie, pas des grandes absentes de l'exil, mais on va dire des absentes de l'exil. C'est pas les femmes qui traversent le plus les frontières. Et ça, c'est important à préciser aussi.
Oui, alors c'est effectivement parmi les 400 personnes qu'elle a reçues, il n'y a pas plus d'une dizaine ou une quinzaine de femmes. Peut-être une vingtaine maintenant, parce qu'elle en a reçu, il y en a plus depuis un an ou deux. Avant, c'était vraiment impossible pour elle. C'était tellement dangereux de traverser la Libye, de passer entre les mains des passeurs. Une femme qui voyage sans protection, elle est à peu près sûre qu'elle va être violée, qu'elle va être violentée. Et peut-être qu'elle sera mise enceinte par ces violeurs. Et donc, généralement, on ne laisse pas partir les femmes. Voilà. Et maintenant, alors il y a d'autres filières, on peut passer aussi avec des faux passeports pour échapper à des vrais problèmes et à des vrais drames, et on utilise d'autres subterfuges pour pouvoir s'échapper, parce que c'est une question de vie ou de mort. Et donc il y a plus de femmes qui arrivent. Et puis il y a aussi des femmes qui arrivent parce qu'elles veulent non pas échapper à la guerre civile, mais elles veulent échapper à leurs conditions de femmes dans les sociétés du Darfour. Parce que...
il y a la place de la femme aussi là-bas.
Voilà, en fait. Il y a la place de la femme aussi dans les... dans la société soudanaise. Et bon, bah voilà, au Soudan, la femme est, c'est une, évidemment une société très patriarcale, où on pratique les mariages forcés, où on pratique l'excision, où on pratique la polygamie. Et donc, il y a des femmes qui aussi fuient parce qu'elles ont été mariées à 14 ans, 15 ans, 16 ans, à un homme de 50 ans, parce qu'elles ont leur fille qui va être excisée et qu'elles-mêmes ont été excisées. Elles ne veulent pas que leur fille soit excisée. Donc, elles fuient aussi, toutes ces femmes, et elles sont prêtes à prendre de plus en plus de risques, et elles sont prêtes à se révolter aussi contre leur propre société. Donc il y a le témoignage dans ce film d'une femme, là on s'échappe un peu de la guerre civile, on s'écarte un peu de ce sujet-là, mais il était important aussi pour moi de le montrer, parce que, voilà, pour montrer, elles sont doublement victimes, ces femmes, et voilà, et comme dans la plupart des pays, quand il y a un drame, quand il y a une guerre, et ben les femmes sont souvent doublement victimes, et sont souvent les personnes qui souffrent le plus. Donc c'était important pour moi aussi de raconter l'histoire de cette femme qui, elle, n'était pas venue là pour raconter les horreurs des milices janjaouides, mais pour raconter l'horreur de sa vie personnelle.
Oui, ça fait partie de façon du portrait du pays. Qu'il y ait une guerre, peu importe le pays où il y a une guerre, il y a aussi le pays en question, il y a son bagage culturel et ses traditions.
Bien sûr.
Ça fait partie du portrait.
Voilà, et là, c'est elles sont victimes du poids des traditions et du poids de la guerre civile. Et donc, il me semblait important aussi parler des traditions et de pas simplement poser les populations, de les angéliser et de dire que tout allait bien chez eux et que tout était formidable et qu'il y avait les bons et les méchants d'un côté, et que même chez les victimes, ils ont des problèmes en interne et eux-mêmes sont capables d'être à l'origine d'injustices.
Alors après aussi, il y a d'autres images dans ce film, on a des images d'archives, de ces images de ce huis clos chez Marie-Josée. Il y a aussi des images de médias. On a été inondé d'images médiatiques de la guerre au Darfour, hein, pour ceux qui se rappellent. Là, pourquoi t'as...
Excuse-moi, je me permets de te corriger. En France, on n'a pas été inondé d'images médiatiques de la guerre au Darfour.
Ouais, non, mais il n'y a pas eu autant que celles qu'on voit dans ton film, comme on peut en voir sur le conflit ukrainien aujourd'hui, ça c'est sûr.
Voilà, et puis surtout, j'ai mis ces images d'archives, ce journal du 20h de Pujadas, de France Télévisions, qui est vraiment grand public, pour rappeler, parce qu'en fait, les gens, si on parle du Darfour à quelqu'un, il ne sait pas le situer sur une carte, il ne sait pas qu'il y a eu un génocide, une guerre civile terrible, il ne sait pas que la guerre continue, qu'il y a encore 3 millions de personnes qui vivent dans des camps de déplacés qui, depuis 15 ans, depuis même 20 ans, n'ont toujours pas pu retourner dans leur village, avoir une vie paisible, et qu'ils vivent dans des conditions atroces, dans des camps de réfugiés qui maintenant atteignent une des populations de 200 000 personnes. Il y a 200 000 personnes qui s'agglutinent dans des camps de fortune, et ça continue aujourd'hui. Et non, on n'a pas été tant abreuvé de ces archives-là. Et c'est aussi pour ça que je fais une piqûre de rappel pour montrer aux spectateurs, à nous, occidentaux, en fait, on avait été prévenus de cette guerre. On ne peut pas dire on ne savait pas, ça ne nous concerne pas. Si, c'était connu, ça faisait l'ouverture du 20h en mai 2005 de David Pujadas.
Et alors aujourd'hui, justement, là, j'évoque vite fait le conflit ukrainien, on parle de ces exilés du Darfour, on peut parler même de tous les exilés d'Afrique à travers cette question. Là, les derniers chiffres, je crois, c'était aux alentours de 24 000, 25 000 personnes qui seraient venues chercher refuge par la Méditerranée en 2022, à côté du nombre de réfugiés ukrainiens que nous avons accueillis. Ça laisse un peu perplexe de se dire, de voir les capacités d'accueil qu'on peut déployer et le non-effort qu'on fait pour ceux qui traversent la Méditerranée.
C'est tout à fait terrible comme constat. Effectivement, aujourd'hui, on en est à peu près là. Par exemple, il y avait les chiffres de nombre d'arrivées d'Afrique sur l'île de Lampedusa. Et d'ailleurs, Matteo Salvini, le candidat d'extrême droite italien, lance sa campagne ces jours-ci sur l'île de Lampedusa pour montrer à quel point nous sommes envahis à nouveau par les Africains. Et 20 000 personnes, en fait, c'est rien comparé d'abord à la population européenne. C'est rien par rapport aux 200 000 personnes qui arrivaient chaque année à Lampedusa, enfin pas chaque année, mais en 2016 et 2017, au moment le plus grave de la crise. Et même 200 000 personnes par rapport à la population européenne, je rappelle que ce n'est pas le grand remplacement. Je rappelle que ça fait 0,001% de la population européenne. Donc aujourd'hui, 20 000 comparé à 200 000, c'est 10 fois moins, et il nous fait croire et on nous dit qu'à nouveau on est envahi, et on montre des images de camps qui grossissent en France, etc. Alors que ça, c'est pas vrai, c'est très peu, et évidemment c'est la responsabilité de l'Europe et pas que de l'Italie. Il faut pas laisser ce travail-là à l'Italie uniquement, parce que d'ailleurs ça fait monter l'extrême droite en Italie, et ça c'est notre responsabilité aussi, c'est la responsabilité de l'Europe de pas assumer son travail de répartition des réfugiés et cette charge, dans un premier temps, qui peut se transformer après plutôt en une chance, d'ailleurs, pour cette Europe vieillissante que nous sommes. Et oui, aujourd'hui, je crois qu'en Italie, ils ont accueilli, par exemple, 180 000 réfugiés ukrainiens. Donc voilà, 20 000 réfugiés africains posent problème, 180 000 réfugiés ukrainiens ne posent pas de problème. Alors je me réjouis que les 180 000 réfugiés ukrainiens ne posent pas de problème, mais je m'attriste de voir que, bah, en fonction de notre couleur, et toujours la même chose en fonction de nos religions, en fonction de si on accueille des gens qui nous ressemblent ou des gens qui ne nous ressemblent moins, et ben voilà, l'accueil n'est pas le même, et la générosité n'est pas la même.
Oui, c'est le côté affligeant, je suis d'accord de ce constat au monde qu'on peut voir.
Il faut continuer d'accueillir les réfugiés ukrainiens.
On parle de migration, alors déjà dans la politique migratoire, là, on préfère aussi donner de l'argent à la Libye ou à d'autres pays frontaliers de la Méditerranée pour, qui bloquent les migrants dans les camps, plutôt que d'agir vraiment dessus. Ça s'est dit aussi dans ton film.
Ben oui, ça c'est, j'évoque cette question-là à peu près aux trois quarts du film pour montrer que ce n'est pas... que les atrocités et que l'injustice ne vient pas que des sanguinaires pendant le génocide des milices janjaouides et des troupes de Béchir, ou des troupes qui sont toujours en place, hein, parce que le régime en place aujourd'hui, Béchir est tombé il y a deux ans. Mais le régime en fait en place, les têtes ont changé, mais en fait ce sont toujours les mêmes militaires qui dirigent le pays, et il y a toujours des exactions aujourd'hui au Darfour. Et c'est vrai que l'Europe se défausse et confie à ces gens-là pas de s'occuper de ces réfugiés, mais simplement de les retenir. Voilà, donc on paye la Libye, on paye le Soudan, on paye ces régimes-là qui sont des juntes militaires, des tortionnaires. Des dictateurs, des violeurs, des génocidaires, on les paye pour, alors par le biais, on les paye pas directement, mais on les paye indirectement en parlant d'aide au développement et d'aide à la prise en charge des flux migratoires, mais en fait on les paye pour qu'ils retiennent les réfugiés. Et donc nous, en ce moment, il y a moins de réfugiés qui viennent, donc on est content et ça fait nos affaires. Mais voilà, on se voile la face, on gagne du temps et on met les problèmes sous le tapis. Voilà.
Et qu'est-ce que tu penses du délit de solidarité alors dans tout ça ?
Bon, le délit de solidarité, je pense que c'est il y a pas de délit de solidarité si on aide une personne qui est en train de perdre la vie, qui est en train de disparaître, de mourir, on lui vient en aide et il y a pas de délit de solidarité. Ce délit de solidarité, c'est une invention juridique pour essayer de faire peur aux gens, pour essayer de leur faire croire qu'ils commettent une faute en commettant...
En hébergeant un Soudanais, par exemple.
En hébergeant un Soudanais, en essayant de faire ce qu'il peut pour qu'il puisse rejoindre un endroit, un lieu sûr. Bon, mais ça, c'est n'importe quoi, mais ça, il n'y a même pas besoin d'en parler, je pense.
Alors, il y a aussi, tu m'as parlé un peu de la jungle de Calais, il y a aussi une chose qui se passe en France quand on parle d'exil. C'est-à-dire que dans des zones comme celle-ci, ou dans des endroits comme des CADA, tout simplement, on va retrouver des personnes d'origine très différentes, comme un espèce de petit laboratoire du monde, à ce qu'ils vont se retrouver, ces exilés, à devoir faire la paix alors qu'ils sont en guerre depuis des centaines d'années, de par chez eux. Confronter la population africaine, par exemple, avec la population arabe, n'est pas toujours facile, nous, ici, dans les centres d'aide. Ça, tu l'as constaté à Calais ?
Moi, je l'ai constaté, bien sûr, parce que quand je vous disais que aussi j'ai eu plus de sympathie avec, enfin, en tout cas, plus j'ai noué plus de liens avec les peuples, avec les réfugiés originaires du Darfour ou d'Afrique en général, c'est parce que même au sein de Calais, c'est vrai qu'il y avait un racisme envers les Africains qui était très violent, voilà. Certaines personnes ne veulent pas le dire parce qu'il faut pas le dire, mais oui, les Afghans et les Syriens, c'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils méprisent les Noirs et qu'ils le disent ouvertement et qu'ils se considèrent au-dessus d'eux et qu'ils considèrent qu'on devrait les aider eux, mais qu'on devrait rejeter les Noirs. Voilà, c'est ce qu'on appelle le réflexe de l'ascenseur. C'est moi, je rentre dans l'ascenseur, mais je laisse pas rentrer les autres. Et puis, ça remonte à des histoires plus anciennes aussi. C'est l'histoire depuis 200 ans sur le rapport entre les tribus arabes et les tribus africaines, entre les routes de l'esclavage. Les routes des flux migratoires aujourd'hui rejoignent les routes de l'esclavage d'il y a bien longtemps. Mais bon, ça, c'est une question générale. On a les mêmes problèmes ici. C'est une question complexe, hein. Et puis, c'est l'accueil, moi, l'aide, l'accueil, etc. Évidemment que je suis, je pense qu'on devrait ouvrir nos frontières, qu'on devrait laisser les gens circuler librement, mais après, tout ça c'est bien facile de le dire, c'est bien facile de le dénoncer dans un film, mais après il faut savoir toute la question de comment on le fait, sur quelle base on le fait, qu'est-ce qu'on demande aux gens qui arrivent ici pour que ça se passe bien aussi, tout ça c'est complexe, voilà, et c'est le travail de chercheurs, c'est le travail d'avocats, c'est le travail de gens qui font les juridictions, qui font les lois, c'est le travail des hommes politiques, c'est le travail des associations, ça doit se faire tous ensemble. Et malheureusement, on ne peut pas dire qu'il y a les bons citoyens et les mauvais politiques, parce que nous, dans nos démocraties, nous sommes responsables des hommes politiques que nous avons, donc il est très facile de s'effausser sur les politiques, mais dans ces cas-là, engagez-vous en politique, prenez le flambeau, devenez élu, et vous verrez qu'ensuite, ce n'est pas simple. Et donc, c'est une réflexion commune qu'on doit avoir, et c'est une responsabilité commune. Voilà, et quand moi, je fais le constat de ce qui se passe, je fais le constat aussi de mon échec à moi. Mmh. Voilà. Et ce qui me plaisait, par exemple, avec Marie-Josée, toujours pour en revenir à Marie-Josée, c'est que avec elle, voilà, on n'est pas juste dans un jugement moral. Elle n'est pas là à dire ceux-là sont les méchants, ceux-là sont les gentils. Elle travaille. Et avec son travail, elle arrive à prouver des choses simplement sur les conditions pour obtenir l'asile. Mais après, une fois que l'asile est accordé, il ne faut pas oublier que pour les demandeurs d'asile et pour les réfugiés, tout n'est pas gagné. Au contraire, c'est un parcours très difficile qui commence. Il y a un accompagnement qui doit être fait. Et tout ça, c'est une responsabilité collective.
Oui, dans les idées reçues, par exemple, pour ces demandeurs d'asile. Tout à l'heure, tu disais que voilà, le grand remplacement, c'est on va dire, c'est un mensonge, c'est une fake news qu'on nous donne. Tout comme pour les demandeurs d'asile, la vie est facile. Non, ils n'ont pas les allocations tout de suite quand ils arrivent sur le territoire. Ce n'est qu'au bout de 5 ans qu'ils pourront, par exemple, toucher leurs premières allocations de la CAF.
Voilà, et puis après, il faut apprendre à parler la langue, il faut trouver un métier, ensuite, quand on a trouvé un métier, qu'on a fait une formation, si on a réussi à l'avoir, eh ben, il faut trouver du boulot, et quand on sait que, à quel point c'est difficile parfois de trouver du boulot, pour nous qui sommes installés là, qui sommes outillés pour nous débrouiller dans notre pays, bah, on peut s'imaginer que pour les gens qui maîtrisent mal la langue, qui sont isolés, qui sont traumatisés, qui sont tout ça, ça va être très compliqué. Et donc souvent, il y a un moment d'ailleurs de désespoir chez les gens, ils ont l'asile, ils sont contents, et puis après, ils voient tout le parcours qu'il y a à faire pour s'intégrer dans la société et tous les obstacles qu'ils ont devant eux. Et il y en a beaucoup qui, à ce moment-là, rentrent dans un état de désespoir aussi. Et il faut s'en occuper. Et à ce moment-là, il n'y a plus grand monde pour s'en occuper parce qu'on considère que ça y est, ils sont sauvés. Mais en fait, non, ils sont pas du tout sauvés encore à ce moment-là.
C'est là qu'on retrouve le tissu associatif qui fait un énorme relais pour s'occuper de ce monde.
Exactement, indispensable. Et ça, il y a un très beau tissu associatif en France, en Italie, partout. Mais malheureusement, voilà, il faudrait plus que ça.
Alors, et dans ce film, à la fin, il y a une question que tu poses à Marie-Josée, parce que Marie-Josée, elle a 92 ans maintenant, aujourd'hui. 91 aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer après Marie-Josée quand elle va arrêter de travailler? Donc, elle fait un genre de haussement d'épaule, je crois, dans ton film, elle ne nous dit pas la réponse. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit hors caméra?
Non, le hors-caméra, je l'ai gardé. D'ailleurs, dans le film, il y a quelques petites apartés comme ça que normalement on ne montre pas dans les films, et moi je les montre. Elle dit, mais je suis fatigué parce que prouver des faits, ça l'oblige à se plonger dans des recherches, retrouver un dialecte qui a été parlé et dont parle le réfugié, qui pourrait prouver qu'il vient bien de cette tribu, ça l'oblige à se replonger dans ses notes, ça l'oblige à lire d'autres livres, d'autres personnes qui ont écrit sur ces tribus, et donc ça l'épuise et c'est très fatigant. Et donc elle en arrive à un moment donné à me dire, effectivement dans le film, je vais arrêter, je suis fatigué, je peux plus la recevoir. Et donc moi je lui pose la question, mais comment ils vont faire sans toi? Parce qu'il y a des choses qu'elle seule peut prouver. Et elle me dit, c'est ça la question. Qu'est-ce qui va se passer après moi? Et donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas arrêter. Et c'est pour ça qu'elle n'arrête pas. Et qu'aujourd'hui, à 91 ans, elle continue toujours d'essayer de voir des gens et de faire ses entretiens. Et elle a eu un petit accident de la vie et elle s'est cassé le fémur et elle est allée à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle continuait de recevoir des gens pour les aider et à leur faire une attestation et à prouver qu'ils venaient bien du Darfour, qu'ils étaient bien victimes de crimes de guerre, victimes de je ne sais quoi. Et elle a continué de travailler. Elle ne peut pas s'arrêter, en fait. Elle ne peut pas s'arrêter parce que les réfugiés continuent d'arriver, parce que la situation est toujours catastrophique au Darfour, parce que rien n'est fait sur place par le régime en place pour que ça aille mieux pour ces situations. Rien n'est fait par l'Europe pour venir en aide à ces populations directement ou pour arrêter d'aider les gouvernements en place. Mais tout ça, ce sont des questions extrêmement complexes. Hein. On nous mettrait tous les deux à la tête des politiques migratoires et de l'Europe pour dire, bon, okay, qu'est-ce qu'on fait avec le régime de Khartoum? Est-ce qu'on vire ce dictateur? Mais si on fait ça, ça va se retrouver comme en Libye. On a viré Kadhafi en Libye, la situation à Kadhafi est encore pire. La situation sans Kadhafi est encore pire en Libye. Donc si on vire les génocidaires en place et la junte militaire, bon, bah, très bien, on a envie de le faire parce qu'ils ont commis des exactions atroces et ils vont être jugés normalement pour ça. En tout cas, ils sont accusés de crimes et condamnés même pour crimes de guerre. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Ça demande un investissement, une réflexion générale, une réflexion de toute l'Europe, une réflexion aussi de tout l'Occident, une réflexion mondiale de l'ONU. Et c'est des questions extrêmement complexes. Donc en attendant, elle, ce qu'elle peut faire, c'est aider à prouver leur identité. Et donc, comme elle ne peut pas arrêter, bah, elle continue. Et puis, j'espère qu'avec le film, ça va susciter des vocations et qu'il y aura des gens qui auront envie d'aider Marie-Josée et de prendre le relais avec Marie-Josée et de s'occuper de son fonds ethnologique et que toute sa documentation soit mise à disposition des avocats ou d'autres personnes qui viennent en aide à ces populations du Darfour. Ça commence déjà à se mettre en place. Il y a des jeunes avocates qui travaillent sur la question précise des réfugiés de cette région qui vont la voir, avec qui je les ai mis en contact. Et donc, on va essayer de s'occuper de ça pour que tout son savoir, même si après, il y a son savoir personnel, elle ne pourra pas tout retransmettre, mais au moins que sa documentation soit transmise, soit publique, soit accessible à d'autres qui vont pouvoir continuer le travail de Marie-Josée. Mais en plus de son savoir, Marie-Josée aussi du temps à y consacrer. Tout le monde n'a pas du temps à consacrer autant de temps. Donc c'est une question qui reste en l'air, mais c'est une question qui concerne les réfugiés du Darfour comme les réfugiés venant de tous les autres pays. La question est lourde pour tout le monde.
Oui, alors si ça donne des vocations, en tout cas ça peut donner des idées. Moi, ça m'a donné une idée de faire appel à des gens qui ont des compétences comme Marie-Josée pour aider certains exilés à faire attester leur récit, que ce soit du Darfour, comme tu dis, ou d'Algérie, ou d'autres pays encore. Oui, ça permet de dire, tiens, on peut faire aussi comme ça pour les aider.
Oui, oui. si ça peut, toutes les vocations que ça peut susciter pour venir en aide aux plus démunis, à ces réfugiés, à ces exilés qui arrivent ici, ça c'est formidable si ça se met en place. Une chose que je pourrais préciser, c'est que même si c'est sûr que c'est un film sur la question des réfugiés en général, c'est quand même un film sur l'histoire d'un pays en particulier et l'histoire d'un métier en particulier, le métier d'ethnologue, et que c'est un film sur aussi la disparition d'un pays, d'une culture, d'une civilisation, même s'il n'a pas disparu complètement, mais il a disparu de manière très violente et très rapide à cause de la guerre civile, à cause des exactions, bien sûr parce que les temps changent, mais dans le film on a toutes les archives en 16 mm, les photographies de Marie-Josée qui pour les premières commencent en 1956, et donc on a de la trace de toutes ces survivances, on a la survivance d'un pays par l'image et par des sons, et donc c'est un film pour aussi rendre et raconter l'histoire d'un pays, en particulier. Et c'est pas un film militant, c'est pas un film uniquement en tout cas militant, c'est un film militant mais indirectement parce que c'est pas un film sur la question des réfugiés en général. Bien sûr, ça touche les politiques migratoires et je l'évoque parce que je l'évoque notamment les politiques migratoires européennes. Ça nous fait un peu froid dans le dos là d'ailleurs quand ça arrive dans le film. Mais c'est avant tout un film sur le Darfour, sur l'ethnologie et sur l'histoire de ce pays depuis 50 ans.
C'est un peu à ça que ça sert le cinéma, à garder mémoire de pendre notre histoire.
Bien sûr, c'est tout à fait à ça que ça sert. Voilà.
Merci beaucoup.
Nous étions avec Camille Poncin à propos de son film « La combattante ». Et il n'y a pas que moi qui ai vu ce film, il y a aussi Gilles Perret qui a vu ce film. Alors Gilles Perret était venu ici à Jindou nous présenter son film « Reprise en main ». Et en sa compagnie, eh bien voyons ce qu'il a pensé de ce documentaire « La combattante ».
J'ai vu le très beau documentaire « La combattante » hier, autant formellement que dans la finesse du traitement sur une dame qui aide les sans-papiers soudanais à essayer de remonter leur histoire pour la rendre crédible et essayer de bloquer la reconduite à la frontière. Et c'est fait très habilement par une vieille dame qui a 90 ans et qui reçoit les gens chez elle et qui est en fait une ethnologue et qui a énormément travaillé sur la région du Darfour et qui connaît tous les moindres villages et qui est capable de, à partir des témoignages, de prouver qu'effectivement la véracité de leur histoire, ce qui est systématiquement mis en doute par l'OFPRA pour justifier les reconduites à la frontière. Et derrière un thème très grave et lourd, il y a quand même beaucoup d'humanité et puis un bel exercice entre l'intime de cette dame et la grande question, la grande problématique internationale. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. C'est instructif, fort, émouvant. Et la forme n'était pas facile. Quand tu passes d'une grande problématique avec de l'intime, des choses comme ça, et moi, j'aime beaucoup ça.
Vous étiez à l'écoute de Camille Poncin à propos de son documentaire « La combattante » vu en avant-première durant les 38e rencontres cinéma de Jeanne Doux, mais aussi durant le festival Migrants Scène au cinéma Louis-Mal de Pressac. Notez également la présence de Gilles Perret en fin d'interview qui lui était venu nous présenter son dernier film « Reprise en main ». Gilles Perret qui, vous l'aurez compris, a profité de sa présence sur les rencontres cinéma de Jeanne Doux pour voir le film de Camille Poncin « La combattante ».